Donc moi, je vais vous rendre compte d'une recherche collaborative. On va essayer d'expliquer ce que c'est. Je parle, mais en fait, le travail qui va être présenté, les petites diapos, et je vais devoir les squeezer. Je m'en excuse auprès d'Anne Jorot. En fait, elles sont élaborées en commun par Anne Jorot et moi-même. Anne Jorot devait intervenir et elle a été convoquée au ministère. Donc Anne Jorot est professeure des universités à Toulouse Le Mirail et elle est l'une des spécialistes françaises des questions de l'évaluation. Voilà. Donc en fait, on va présenter l'analyse d'une démarche de recherche co-construite entre professionnels de l'enseignement, de la formation et de la recherche. Elle a été conduite dans 3 collèges présentant toutes les caractéristiques d'établissements d'éducation prioritaire. C'est pour ça qu'on appelle recherche collaborative sur 2 années. Les années scolaires commençaient en 2010 et celles commençaient en 2009 et celles commençaient en 2010, c'est-à-dire 2009-2010, 2010-2011. Elle porte sur l'évaluation de la compétence écrire en maîtrise de la langue en 6e, pilier 1 du socle commun. Alors cette recherche, elle est née d'une demande de formateurs auprès du Centre Alain Savary, et nous avons ici ces bienfaiteurs, ils sont là, auprès de ce qui était encore à l'époque l'Institut National de Recherche Pédagogique, suite à l'expérimentation d'un dispositif académique maîtrise de la langue pour des élèves de 6e de collège d'une des villes les plus pauvres de France. Les résultats de ce dispositif semblaient peu probants aux formateurs, si bien que le projet d'un accompagnement par la recherche a pu être engagé avec l'aval des autorités académiques et des chefs d'établissement. Donc on est sur un gros dispositif du point de vue institutionnel. Alors il a fallu constituer une équipe. Alors elle va se constituer au cours des premiers mois de définition du projet qui a été co-élaboré avec les enseignants, les formateurs et les chercheurs, et d'un premier recueil de données, des premiers jets d'écriture des élèves de 6e et des modalités d'évaluation par les enseignants. 15 personnes étaient engagées dans ce projet. Elles étaient toutes différentes par leur statut, leur fonction, leur représentation des problématiques exposées, leur proximité avec les élèves concernés. L'hétérogénéité de l'équipe se caractérise aussi parce que les questions abordées, les problèmes soulevés s'inscrivent dans des registres variés en référence au domaine disciplinaire de compétences de chaque protagoniste. 8 enseignants de français qui au final ont été 6, 1 enseignant d'histoire-géographie, 1 enseignant de SVT, qui sont tous dans des classes de 6e, mais dont certains occupent d'autres fonctions, comme celle de formateur ou préfet des études. 2 formateurs ressources, Michel et Jean-Pierre, qui vont intervenir ensuite. 1 formatrice IUFM impliquée localement, c'est Nathalie Bertrand, que vous avez entendu déjà. 1 chargée d'études et de recherche avec mission d'interface entre recherche et pratique dans le domaine de l'éducation prioritaire, le Centre Alain Savary, c'est Marie-Odile Mersandoz. 1 chargée d'études et de recherche en enseignement du français, c'est moi. Le Centre Alain Savary, garante de la logistique, en adéquation avec les objectifs de recherche du projet lui-même et du projet scientifique de l'Institut. Et 1 chercheure en sciences de l'éducation, qui était donc Anne Jorot. Donc en fait, on était sur un projet qui était à la croisée de la didactique du français et de l'analyse du travail enseignant. Il a fallu reproblématiser les difficultés rencontrées par les enseignants dans les classes en un objet de recherche, l'évaluation de la compétence écrire, avec une focalisation, on y a été contraint pour des questions de temps, au niveau micro, c'est-à-dire on s'était attaché à la cohérence textuelle, sur les processus d'apprentissage de l'écrit, et d'autre part l'engagement dans des démarches innovantes relevant de la recherche. Au début de l'expérience, année 2010, les postures de soutien ont été particulièrement mises en œuvre auprès des enseignants par les formateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une posture de soutien? Il s'agissait d'aider les enseignants à entrer dans une recherche et à les sécuriser parce qu'ils entraient dans une activité différente et ne disposaient pas forcément des repères sur la démarche de recherche à constituer des corpus. On avait décidé que les enseignants volontaires ne devaient rien modifier à leur programmation et fonctionnaient ordinairement avec leur classe. Les observations et recueils de données concerne la séance de rendu et le corrigé des jets d'écriture. Ce recueil est constitué de verbatim de la séance et des brouillons d'élèves. On observe les modalités d'évaluation formative d'une tâche d'écriture qui n'est pas une simple capacité. Pour la seconde phase de la recherche, les intentions du comité de pilotage relevaient plus particulièrement de la posture d'appui. C'est-à-dire que là, ce sont les enseignants qui ont été invités à définir collectivement un projet et à s'engager eux-mêmes dans des pratiques innovantes. On a commencé à se mettre un peu en retrait. L'effet observable réside dans la façon d'entrer en relation avec les élèves, de tester des pratiques nouvelles, de regarder autrement les élèves. Enfin, la troisième et dernière modalité d'accompagnement, celle du cheminement, elle sera effective lors des séances d'analyse des situations didactiques, c'est-à-dire qu'on allait sur le terrain, on faisait des rendus, des comptes rendus de nos analyses auprès des enseignants. Alors, il s'agissait là de valoriser la réflexivité des acteurs et de leur permettre d'envisager un devenir à leur projet collectif. Et les formateurs étaient là pour se mobiliser sur une posture de passeur. Tout ça n'a pas été quand même si simple à mettre en œuvre. La posture d'accompagnement mise en œuvre par les chercheurs, ils étaient éloignés, eux, géographiquement, loin des équipes, puisque nous, on était à Lyon. Ils ont cherché et étaient différentes de celles des formateurs. Eux, les chercheurs, ont cherché à sensibiliser les enseignants à la nécessité de problématiser des situations d'écriture. Cette posture était confortable. C'était plus difficile pour les formateurs qui étaient sans cesse en train de devoir jouer un rôle d'interface. La logique de recherche, celle proposée par l'INRP, supposait un recueil de matériaux, une analyse des écrits des élèves et un travail de problématisation. Le travail d'analyse était particulièrement important et c'est le comité de pilotage qui y procédait. On s'est réparti des clés d'analyse pour les présenter aux enseignants. La séance de réflexion collective visait à permettre une appropriation d'enjeux d'écriture, un questionnement sur les processus d'écriture, des choix de travail par les enseignants à partir de leur centre d'intérêt. La logique de recherche restreint volontairement son aire d'intervention à l'inverse de la logique de la formation et de la logique évaluative. Le dialogue scientifique est un dialogue de type analyse, problématisation, conceptualisation que les enseignants et les formateurs ont découvert peu à peu. L'objet de la recherche porte sur la compétence écrire. Je vais passer très vite parce qu'on en a déjà beaucoup entendu parler. À partir des recherches du groupe EVA à l'INRP dans les années 90, qui avait mis l'accent sur la difficulté de ce qu'était l'acte d'écrire, et il fallait trouver les moyens d'alléger la surcharge cognitive induite par cette activité scripturaire, ce qui a amené les enseignants à décomposer la tâche d'écriture en items, suite justement à la diffusion auprès des praticiens des travaux du groupe EVA. Mais la question qui s'est posée, c'est si on simplifie trop, si on découpe en strates une activité complexe, comment alors les élèves peuvent-ils s'y investir? Cela posait aussi la question du moment où on le considérait un texte comme ayant acquis une globalité de sens. Cela interroge les capacités d'intériorisation faites par l'élève de ces diverses fiches de guidance dont on l'outille à bonne fin pour délester et étayer son activité. La conception, là, je vous donne les résultats maintenant de ce qu'on a déduit dans les dépouillements des corpus, la conception de l'apprentissage de l'écriture. Donc, du côté des enseignants, les activités de production écrite proposées par les enseignants à leurs élèves montrent l'élaboration d'un protocole structurant avec un modèle unique qui dénote une conception du sujet apprenant comme un être rationnel. L'analyse des documents révèle un parti pris de l'explication, de l'enrôlement dans un parcours d'écriture unique, de la mise à disposition et de l'apprentissage de l'usage d'un seul outil. Il est constaté une hypercentration sur le cognitif, les fonctions sociales et affectives sont, elles, occultées. Des situations d'interaction entre pairs ne sont guère soit proposées, carrément, elles ne sont pas proposées, ou si elles existent, elles ne sont pas favorisées. Les démarches d'enseignement et apprentissage de l'écriture ne s'inspirent pas des théories du socioconstructivisme. Le sens de l'écrit, surtout, reste implicite et la socialisation des productions écrites n'est pas mise en évidence. Ça, c'était l'état des matériaux quand on les a recueillis. Donc, on a commencé l'expérimentation en janvier, et le premier dépouillement s'est fait en mars, hein, c'est ça, voilà. La différenciation des objectifs d'écriture. Il apparaît que les tâches proposées visent un même niveau de difficulté, ou du moins ne permettent pas de distinguer des paliers d'acquisition de la compétence écrire. Les objets de l'évaluation sont très rarement élargis à des dimensions plus processuelles. La phase d'entrée dans l'écrit, ce qui permet de poser des exigences sur les ressources mobilisées en rapport avec la discipline, le travail du brouillon, la participation de la classe à la reformulation de la consigne sous forme de critères, les suggestions de la classe en matière de scénarisation de l'écrit. Donc ça, c'est pas élargi du point de vue de l'évaluation des objets et la mise en écriture non plus, ce qui permet de valoriser la coécriture puis l'écriture individuelle, de définir le point de vue adopté. La posture d'évaluateur. Les interactions d'évaluation formative ont révélé une prééminence des attentes des enseignants sur la forme achevée des écrits, ce qui interroge l'importance donnée à la construction des savoirs comme à l'élaboration de concepts et de raisonnements propres à chaque discipline. Ces évaluations se construisent à partir de la conformité ou de la déviance des productions de leurs élèves par rapport à une norme scolaire, ou un idéal du texte, et ça c'est très présent chez les enseignants de français. Habitués à fonctionner en équipe et en réseau, les enseignants se sont d'abord attachés à poursuivre des méthodologies de travail très stéréotypées et basées sur un étayage parfois excessif. Boîte à outils, des couleurs pour la maîtrise de la compétence, etc. Ils avaient un gros dispositif déjà à leur disposition quand on est arrivé, puisqu'il y avait eu tout un travail préalable fait au niveau de l'académie autour de la maîtrise de la langue. Le système d'évaluation suivait globalement les propositions de l'administration et se basait sur des critères très affinés. Toutefois, la course permanente contre la montre et la non-oralisation du texte produit par les élèves, parce que ça c'était constant, il n'y a jamais eu, dans ce qu'on a recueilli aussi bien dans les séquences de classe, les enregistrements, des moments où l'élève lisait par exemple son texte à l'ensemble de ses pairs. En fait, ça privait les élèves de la capacité à quitter la pulsion créatrice et à prendre conscience en autonomie des incohérences de leur texte, puisque je vous rappelle, normalement, on ne se focalisait que sur la cohérence textuelle, c'était la décision du groupe. Rarement des postures d'attente ou de retrait dans l'évaluation, le recours au « pas pu juger » sont adoptés par les enseignants alors qu'on est sur une évaluation d'un processus d'écriture et d'une évaluation formative. Peu à peu, cependant, les enseignants ont modifié leur posture. Ils ont d'abord cherché à élaborer de nouvelles modalités d'évaluation, davantage basées sur les efforts et les progrès individuels, voire sur une typologie d'élèves. On est revenu les voir et on leur a posé la question, on s'est intéressé sur ce que pouvaient être des critères d'évaluation. L'acte évaluatif revient à poser la question suivante. Quelle est la valeur de l'écrit remis par l'élève au professeur? Cette valeur peut s'appuyer sur deux critères. Le critère de sens, cet écrit a-t-il du sens? Cet écrit est-il compréhensible par autrui? Ce qui avait à voir avec la cohérence textuelle. Et un critère épistémologique, cet écrit revêt-il un intérêt particulier du point de vue des savoirs disciplinaires? Au-delà de ces considérations, il reste encore, si on veut évaluer une compétence, à déterminer les niveaux d'acquisition de la compétence. Et là, Anjoro s'appuie sur la typologie de Bernard Ray pour différencier la capacité à écrire qui démontre la maîtrise d'un savoir et son intégration dans le texte, un second niveau qui mobilise des procédures de base automatisables, un troisième niveau qui correspondrait à une compétence ouverte, l'apprenant mobilise des savoirs qu'il n'avait pas l'habitude de convoquer ensemble pour répondre à la tâche. Et ensuite, on s'est posé la question, puisqu'on était à la croisée didactique du français et professionnalité enseignante, sur quel positionnement possible serait possible du côté de l'enseignant pour accueillir les productions des élèves et se mettre en posture d'évaluateur lorsqu'il reçoit les écrits. Donc un positionnement semble possible qui interroge la professionnalité des enseignants. Il s'agirait d'accueillir les textes en valorisant les recherches, les richesses, pardon, plutôt concernant les manques, de nommer devant l'élève ses points d'appui et de lui proposer des pistes d'action pour améliorer sa production. Ce processus de valorisation permettant à l'élève, rassuré par le retour de l'enseignant, de repartir vers son écrit pour l'améliorer en vertu de la règle du renforcement positif. Alors, lorsque nous sommes intervenus sur la deuxième année, on avait complètement changé le dispositif initial. Et là, je n'en parle pas dans ma présentation parce que c'est Jean-Pierre Bourreau et Michel Sanchez qui vont vous en rendre compte. On a demandé à mettre... ça a été demandé aux enseignants, là. Hein, ça n'a plus été vraiment une négociation, à l'inverse de ce qui s'est fait précédemment. On a demandé aux enseignants de bien vouloir mettre en place des entretiens d'explicitation, ce qu'on appelle... pupil voice, quand on est de l'autre côté, en tout cas de travailler justement sur cette oralisation qui faisait défaut dans ce qu'on avait recueilli. C'était le gros défaut en fait, c'est qu'il n'y avait pas un appui, que ce soit l'oralisation des productions écrites des élèves, que ce soit sur vraiment un échange dialogique entre enseignants et enseignés. Donc, Anne Jorot a continué à travailler sur cette question des gestes des enseignants lorsqu'ils sont en train de travailler. Elle vient de publier un article, il va publier, il est en gestation, sur les postures des enseignants dans la tâche de correction. Son étude porte chez les professeurs d'école, mais en fait... elles ont été à peu près semblables chez les enseignants impliqués dans notre recherche. Alors, il y a la posture normative qui se traduit par des interrogations fortement codées et des injonctions. Fais ceci, ou c'est bien. La posture indicielle qui oriente sur un point précis, qui prend la forme d'interrogation sur la définition d'un terme employé mais pas forcément maîtrisé, avec peu d'assertions, peu de réponses. Pas d'invalidation ou de validation. Une posture présentielle qui affirme ou conteste explicitement avec un nombre important de déictiques, des modélisateurs forts, forcément, bien sûr, et une subjectivité très présente, mais pas beaucoup verbalisée. C'est toujours le même problème. Il y avait un déficit de verbalisation et donc les élèves avaient du mal à rentrer dans... une amélioration du texte, par exemple, parce qu'on leur dit, ça a été plusieurs fois déjà pointé, améliore ton texte, et puis, ben voilà, améliore ton texte. Anne Jorot, dans sa dernière étude, a aussi repéré les postures de l'élève. Du côté des élèves, trois grands types de postures semblent émerger dans l'acte d'écrire, du rendu des évaluations. Une posture de figuration dans laquelle un élève mobilise peu de processus cognitifs en apparence, son rôle se caractérise en action ou en parole, surtout par de l'obéissance. Une posture constatative dans laquelle le locuteur se réfère à quelque chose dans le monde objectif, c'est emprunté à la Bormas, ce qui signifie que l'élève décrit des objets de savoir, il les désigne, les nomme, ou explicite leurs propriétés, genre et nom, parité, orthogonalité, etc. Une posture régulatrice, dans laquelle l'élève se réfère à la façon de traiter un objet, où il prend en charge les différentes étapes d'une démarche adaptée à l'objectif de la consigne. S'il y est guidé pas à pas de façon trop descriptive, il pourra s'agir plutôt de figuration. Sans qu'on lui dise, il enchaîne les étapes de la résolution d'exercice. Au regard des difficultés des élèves, les enseignants sont appelés à aller vers des postures plus complexes. On peut citer, elle renvoie un autre de ses articles, par exemple, la posture de l'ami critique, mais c'est aussi ce que vont développer Jean-Pierre Bourreau et Michel Sanchez, qui qui va dans le sens de la recherche de nouvelles médiations avec les élèves. Et donc, en fait, on a décidé de demander à ces enseignants de réorganiser leur classe, leur dispositif d'écriture, de manière à pouvoir faire entrer la médiation sociale dans leur pratique de classe. J'ai mis là, mais ça n'a pas été distribué, la bibliographie d'Anne Jouraud. Alors, si on veut vraiment travailler sur cette question d'une évaluation formative, de travailler sur les processus, il faut vraiment s'interroger sur ce qu'est l'acte d'évaluer et interroger la formation professionnelle comme d'habitude. Anne Jouraud, sur la base des travaux de l'ADME. Alors l'ADME, c'est une association qui travaille sur les dispositifs d'évaluation. Il vient d'y avoir un symposium au début du mois de janvier. Je vous renvoie à une vidéo qui est en ligne, qui est très intéressante parce qu'on n'a pas beaucoup abordé ce problème sous cet angle-là dans cette formation. C'est Jonaert, Jonaert, qui interroge la manière dont on peut d'abord définir la compétence qui est si complexe et comment est-ce qu'on peut commencer à envisager une évaluation de cette compétence. Alors en fait, Anne Jouraud a établi un tableau qui résume les compétences évaluatives dans cet article-là, qui est un article plus ancien, qui date de 2006, dans la même revue « Mesures et évaluation en éducation ». Elle s'intéresse à la formation professionnelle des enseignants, mais en fait, on peut regarder ce qu'elle déploie comme compétences, ce qu'elle donne comme exemple. Donc, je vais vous le lire assez rapidement. Donc, elle s'appuie beaucoup sur les travaux de Linda Halal, auxquels aussi on s'est beaucoup référé à l'intérieur de ce groupe de travail. Donc, il y a la compétence théorique. Donc, c'est basé en fait sur l'entretien de co-évaluation en situation de stage. Mais ce qu'elle déploie comme compétence du côté des enseignants, c'est connaître et comprendre les modèles de l'évaluation, approche sommative, formative, auto-évaluative, co-évaluative, et augmenter les choix et utilisation de ces démarches. Des compétences méthodologiques, c'est le travail de paquet vers un référentiel de compétences, et ça, c'est un peu l'atelier que va prendre ensuite en charge ici Alain pour terminer l'épluchage qu'on avait fait du référentiel de compétences au palier 3. Alors, il faudrait garantir la validité et l'équité des évaluations, instaurer la référentialité par rapport à des observations, collaborer dans la construction du portfolio avec les évalués, instaurer un suivi personnalisé, favoriser la régulation des pratiques professionnelles. Il faudrait développer des compétences d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie de formation. Elle s'appuie là sur les travaux de Pernoud, des nouvelles compétences pour enseigner. On en a beaucoup parlé aussi déjà des travaux de Philippe Pernoud. Ce serait élaborer un référentiel pour chaque action, chaque dispositif, aménager des temps de régulation. Des compétences sémiotiques, ce serait écouter ce qui est dit. On avait pointé que justement dans le référentiel de compétences pour la compétence 1, on avait oublié la compétence écouter. Écouter ce qui est dit, comprendre ce qui ne se dit pas, susciter une approche clinique des postures professionnelles et développer une parole indicielle. Des compétences éthiques, la question du pouvoir de l'évaluateur, donc ça c'est son travail à Jouraud, l'éthique de l'évaluateur, un audit de l'ESEN. Ce serait relever les points de réussite, confronter les points de vue, remettre en question le référentiel. C'est-à-dire que ça, elle a étudié du côté de la formation des enseignants, mais en fait, on peut voir que ça reste transposable en situation de classe si on s'interroge sur sa posture d'évaluateur en situation de classe. Alors, j'espère ne pas avoir été trop confuse parce que j'ai voulu impérativement tenir le temps et qu'en fait, on va revenir dans les deux ateliers de cet après-midi sur des implicites. Hein. C'est difficile de rendre compte de la parole de quelqu'un, de ses recherches, et voilà, c'est la difficulté, voilà, je vous remercie.